suite sur France Culture du lundi au jeudi. Une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, l'art face à 1917, une série documentaire de Perrine Kervran réalisée par Ghislaine David. Au départ de cette série, il y a un centenaire, ou plutôt plusieurs, celui du chemin des dames, de la révolution russe, du ballet Parade, de la constitution mexicaine, de l'ouverture de la galerie Dada, de l'urinoir de Duchamp, des joueurs de cartes de Léger, des mamelles de Tirésias et des folies de Jacques Vacher et André Breton. Il y a aussi cette idée que le monde comme il va, ou comme il ne va pas, touche les artistes et se retrouve en creux ou en relief dans les poèmes des uns, sur les toiles des autres ou sur scène. Et puis le fait que parmi les soldats de la Grande Guerre, tout aussi déterminés et nationalistes que les autres, il y avait Sandrars, Léger, Dix, Tolkien, Apollinaire, Beckmann, Zadkine et bien d'autres, et qu'on aimerait savoir ce qu'ils en ont tiré et ce qu'ils y ont laissé. Alors pour commencer, les personnages. Des peintres et des écrivains englués dans la tranchée, une historienne de la Grande Guerre, un historien grave et facétieux, deux enseignants qui emmènent les élèves sur les champs de bataille, une conservatrice qui sait tout et une commissaire passionnée. Ensuite le décor, la Somme, les couloirs de l'Institut National d'Histoire de l'Art, l'historial de Péronne aux uniformes étendus sur le sol, les Invalides comme un labyrinthe et des toiles aux cimaises. Aujourd'hui, premier épisode, on cherche les trous d'obus.
Et tout ça, ça nous amène jusqu'à la période de 1914, c'est-à-dire jusqu'à la déclaration de la guerre. Et je me souviens que deux jours avant la guerre de 1914, vous avez fait avec Canudo une proclamation qui a paru dans tous les journaux de Paris et qui engageait
un appel pour les volontaires étrangers. Il y a eu 88 000 engagés volontaires étrangers durant la guerre 14.
Oui, et c'est à ce moment-là que vous êtes engagé dans la Légion.
Oui, on ne peut pas s'engager ailleurs que la Légion,
et
comme étranger.
Là, vous avez dit que, contrairement à beaucoup de gens qui tiennent une plume, vous n'avez pas fait la guerre pour écrire ou pour décrire, mais à ce moment-là, vous étiez un soldat qui tenait...
J'étais un soldat. Oui. Ou on est combattant ou on est écrivain. Quand on écrit, eh bien, on ne combat pas à coups de fusil.
Oui.
Et quand on tire des coups de fusil, on n'écrit pas. Alors on écrit après coup.
Et
moi, j'ai fait quelques récits, j'ai fait un bouquin là-dessus,
après coup,
30 ans après.
30 ans après, oui. C'est ce qui est étonnant, c'est que vous avez mis un temps aussi considérable avant d'écrire ce récit.
Artiste au front. Comment raconter, ou pas, la Première Guerre mondiale?
On vous suit.
Alors, il est possible qu'on croise des chèvres ou ce genre d'animaux.
Des chèvres, ça devrait aller.
Voilà. En général, tout se passe bien, on n'a pas d'animaux agressifs sur le site. Mais c'est eux qui entretiennent un peu aussi l'espace. On est sur les hauteurs de la Somme, on aperçoit la Somme qui est juste là en contrebas. Au pied du coteau, il y a le canal de la Somme qui passe.
Laurent Mariot.
Et au fur et à mesure qu'on va avancer là sur l'espace qui est devant nous, on va croiser tout simplement les tranchées allemandes dans un premier temps. Et puis française ensuite. On va retrouver cette proximité des lignes, hein, parce qu'on est proches les uns des autres finalement. Beaucoup d'écrivains nous montrent que d'une tranchée à l'autre, on échange verbalement, on se lance quelques objets, que ce soit des cigares. Il y a vraiment une proximité qui fait que l'autre, même si on ne le voit pas, puisque c'est une guerre où l'ennemi est quelque part invisible, même si on ne le voit pas, on est en contact permanent pratiquement avec lui. Donc là, pour l'instant, on est toujours côté allemand. La première ligne arrive, là, juste devant nous.
On voit des anfractuosités, des trous, des tranchées. C'est assez confus.
On comprend bien avec le nombre de cratères d'obus qui restent visibles. Cratères de mines, comme on a juste là-bas devant nous. On comprend bien qu'en termes de végétation, le terrain a dû être complètement épuré à l'époque. Alors là, on vient de passer la première ligne allemande. On voit bien le dessin de la tranchée qui descend du plateau, là, où il y a les grands arbres.
Oui, puis on voit comme un fossé qui serpente dans la colline.
Fait, et qui va descendre jusqu'au rebord du talus, parce qu'après, vous allez voir, on descend en pente très raide sur les marais de la Somme.
Donc c'est effectivement un face-à-face avec une grande proximité, les gens sont à 50 mètres de distance.
Ah oui, oui. Sandrard s'explique que c'est tellement proche que s'ils tendaient leurs fusils munis de leurs baïonnettes, eh bien ils arriveraient à se toucher.
Au bois de la Vache, nous tenions un petit poste qui n'était séparé du petit poste allemand que par une épaisseur de quelques sacs de terre. Les Fritz étaient aussi mal lotis que nous. Il y avait des tranchées qui n'avaient pas plus d'un mètre de profondeur, et en bordure du bois, il y en avait une qui n'était faite que de macabées entassées. C'est là que, prise dans les barbelés, pendouillait une momie. Un pauvre type tellement desséché et racorni que les rats qui avaient élu domicile dans son ventre le faisaient sonner et résonner comme un tambour de basse. Il devait être là depuis août 14.
Et chacun de se demander comment il en est arrivé là. Les pieds dans la gadoue, la peur au ventre, un fusil entre les mains et la haine en bandoulière. Quand quelques mois avant, on mettait de la couleur sur sa toile et on fabriquait des poèmes. Quand quelques mois avant, Fernand Léger fréquentait les artistes russes de la ruche, traînait à Montparnasse avec Chagall, Apollinaire ou Sandrars, échafaudait des théories sur l'art à Puteau avec les frères Duchamp, ou donnait des conférences à l'Académie Vassiliev avec Diego Rivera. Maintenant, c'est facile. On sait comment c'est arrivé. On n'a plus qu'à regarder tout ça bien installé dans les vitrines de l'Historial de Péronne. Et mis comme ça, bien à plat, ça saute au visage. On voit bien que ça couvait, que la violence sourdait depuis longtemps et qu'on y allait tout droit à la catastrophe.
Le 31 du mois d'août 1914, je partis de Deauville un peu avant minuit, dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe. Les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières. Et quand, après avoir passé l'après-midi, nous arrivâmes à Paris, au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque nouvelle. Guillaume Apollinaire.
Christophe Thomas, Laurent Mariot, on a souvent cette image de l'artiste, de l'auteur qui forcément est un peu pacifiste, forcément va à la guerre à reculons, forcément il va en tout cas pour la dénoncer. C'était pas du tout ça, les auteurs, les artistes au combat en 14.
Ça dépend. Si on prend les exemples de Barbus et de Duhamel, l'un et l'autre sont pacifistes avant-guerre et pourtant ils vont s'engager. Duhamel, il a décidé à l'entrée en guerre de s'engager, de participer lui aussi à sa façon au conflit qui s'engage, pas parce qu'il remet en cause les idées pacifistes qui lui tiennent tant à cœur, simplement parce qu'il s'estime en tant que médecin utile à venir sur le front pour soulager les souffrances.
Et pour beaucoup d'artistes, eh bien, ils suivent un mouvement qui voulait que la guerre était un petit peu vue comme purificatrice. Beaucoup d'artistes, eh bien, vont choisir de s'engager. Pour Sandrard, par exemple, c'était voir la guerre et trouver derrière la liberté.
Donc là, on a monté une colline. On a devant nous, à nos pieds, un kilomètre, un village, et puis on voit le clocher, on voit les petites maisons en briques rouges. On a des champs de colza, des champs qui sont en terre, d'autres qui sont recouverts de petites pousses vertes. Et on est donc un peu en hauteur, on a une vue très dégagée sur l'horizon, on voit très loin. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que c'était le plus intense dans ce secteur-là?
C'était assez calme. Il y avait vraiment plutôt un face-à-face, une guerre de position, hein, comme a été la Première Guerre mondiale. Le village est tenu par les Français et là où nous nous trouvons, tenu par les Allemands.
Ici, sur le site de Frise, avec les extraits de La main coupée de Sandrars, on peut tout à fait lire le paysage et se mettre pratiquement à la place de Sandrars à l'époque. Il nous décrit par de simples mots ce que nous avons sous les yeux.
Et d'ailleurs, on a suivi la route pour arriver à Frise. Et si on continuait, on pourrait aller assez loin et suivre toute la ligne de crête où était la tranchée allemande, en fait. Et donc, à l'arrière, c'était toute la partie occupée par les Allemands du côté de Péronne.
À Frise, Bikoff avait été s'installer dans le clocher de l'église. Et c'est là que j'avais découvert par hasard ce tireur émérite, alors que j'étais monté un après-midi en haut pour avoir une vue d'ensemble et faire un croquis des positions allemandes qui grimpaient en pente douce des rives du canal de la Somme au fortin du calvaire qui nous dominait. Quand je lui ai apporté une lunette de campagne à Bikoff, nous ne fûmes pas de trop à trois pour tirer les sentinelles allemandes du matin au soir, en dehors de nos quarts réglementaires et à l'insu de nos gradés. Cela dura jusqu'au jour où les Boches abattirent le clocher de Frise à coups de canon.
Alors voilà, la violence devient le quotidien et très vite, tout le monde est au front. En guerre d'une façon ou d'une autre et avec plus ou moins d'enthousiasme ou de peur. Breton, Braque, Vacher, Apollinaire, Sandrars, Léger, Masson, Zadkin, Dorgelès, Barbus, Kissling, Derain, Dix, Beckmann, Max Jacob, les frères Duchamp, Franz Marc ou Tolkien. Et si désormais on se regarde en chien de faïence, jusque-là pourtant on se fréquentait joyeusement. Et souvent, on vivait tous ensemble.
Béatrice Joyeux-Prunel, il y a une géographie très particulière des avant-gardes, des artistes parisiens en 1917.
Oui, cette géographie, elle s'est déployée surtout depuis 1908 à peu près, où on a vu descendre beaucoup d'artistes étrangers vers Montparnasse. Parce que Montparnasse, c'est pas cher, parce que il y a des ateliers, il y a des baraques, il y a même des bidonvilles. Jusqu'aux années 20, c'est vraiment des quartiers pauvres, c'est les quartiers des étrangers. Ce que André Masson, artiste surréaliste, appelait le Paris des misérables, où on rencontrait les travailleurs étrangers, nord-africains, les plus pauvres. Et donc, parmi les plus pauvres, les artistes se retrouvent parce qu'ils peuvent travailler ensemble. Ce qui a fini par gêner. Ce qui a fini par gêner les milieux parisiens qui, en 1912, commencent à râler, à critiquer la présence étrangère et dire « Et Montparnasse, c'est le quartier des métèques. Et on n'en veut pas des métèques, etc. »
Est-ce que Paris reste la capitale de l'art contemporain, des avant-gardes, comme on la présente souvent ?
Tout est international, tout circule. Et les artistes, même ceux dont on a dit qu'ils produisaient à Paris, c'est pas vrai, ils produisent pas qu'à Paris, ils bougent, ils rentrent en vacances chez eux, et ils en ramènent des œuvres nouvelles, et puis surtout, qui achète, ce sont beaucoup d'étrangers. Et les artistes eux-mêmes manipulent et sont très intelligents pour arriver à tirer parti de ce côté transnational et des différences entre les villes, les métropoles et les lieux culturels. Paris capitale, pas tellement, et alors pour la guerre, c'est encore plus clair parce que les gens partent. Alors il y en a qui partent en Espagne, qui est un pays neutre, il y en a qui partent aux États-Unis, qui est encore un pays neutre aussi jusqu'à l'entrée en guerre du pays, il y en a qui rentrent au pays. Donc là aussi on voit plusieurs centres se déployer, se multiplier, où pour certains on a l'impression qu'ils ont exporté un petit peu de Paris et essayé de reproduire ailleurs, à New York ou à Barcelone, l'ébullition parisienne. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui partent, Chagall s'en va par exemple. Il y a ceux évidemment aussi qui partent au front. Alors vous avez deux types d'artistes qui partent au front, vous avez les Français et puis ceux qui s'engagent dans la Légion étrangère, comme le fait par exemple Kissling, Maurice Kissling, ou comme le fait aussi Guillaume Apollinaire. Des artistes qui décident de, entre guillemets, laisser tomber leurs origines et rendre, entre guillemets, à ce pays qui les a accueillis, ou en tout cas dans lequel ils se sont sentis accueillis, ce qu'ils ont reçu, et aussi, peut-être aussi, parce qu'il y avait une pression xénophobe. Et le fait de s'engager quand on était étranger, soumis à la pression xénophobe, c'était une manière de montrer que on était quelqu'un qui était intégré et qu'on n'était pas une menace pour le pays. D'autant plus, là encore, que les avant-gardes étaient considérés comme des gens qui menaçaient la France. Et enfin, il y a aussi ceux qui partent parce qu'ils refusent d'aller au combat. Albert Gleizes, lui, s'en va, quitte le pays. Robert Delaunay aussi fait partie des déserteurs. Marcel Duchamp n'est pas déserteur. Duchamp, il a été exempté parce qu'il avait ce qu'on appelait un souffle au cœur. Et d'ailleurs, c'était un peu son problème d'être exempté, c'est qu'il aurait bien aimé servir comme ses frères.
En 14, et les temps, les deux années ont passé très vite. Et la guerre est venue. Et moi, je ne pouvais pas être soldat parce que je n'avais pas encore l'âge pour être soldat. Et je suis devenu soldat seulement en 10 ou en 15. Et j'ai recevé déjà plus d'argent de mon père. Et en 15, je me suis engagé dans l'armée française. dans la Légion d'abord, et après j'étais affecté dans l'ambulance russe qui était donnée par le tsar à l'armée française. En tout ce temps, en ayant tout le temps des grippes et des rhumes, et de ceci et de cela, n'est-ce pas, en couchant partout où vous voudrez, n'est-ce pas, jusqu'où j'ai attrapé un jour dans une voiture, parce que j'étais donc brancardier, on allait avec les voitures pour chercher des blessés, et un jour, la voiture, et les voituriers, et moi, et les brancardiers, on se sont trouvés dans un trou. C'était un joli petit odeur, ça sentait un peu comme certaines savonnettes qu'on trouve, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui j'ai appris de se méfier comme de la mort, n'est-ce pas. La savonnette, il y a des gens qui passent dans la rue et on sent qu'ils sont un petit peu, ils sont parfumés par un savon avec lequel on fait des gaz. Qui sentait un peu la savonnette, ça sentait un peu de certaines petites fleurs du printemps. Eh bien, nous étions gazés tous les deux, on nous amenait à l'hôpital et je suis resté dans cet hôpital à vomir pendant tout un mois en buvant du lait. Où à cette époque-là, j'ai signé mon nom, Joe Zetkin. Une vieille réminiscence anglaise, Joe Zetkin, Sam.
Annette Becker, on se rend compte qu'on pouvait tout à fait être un militant nationaliste et un avant-gardiste.
Tout à fait. Et ça, c'est le cas d'Apollinaire, par exemple. Il est Dreyfusard, ça ne l'empêche pas, par la suite, de devenir vraiment très nationaliste. Et dans l'avant-guerre, il a beaucoup de contacts avec des artistes allemands, parce que tant qu'on n'est pas en guerre, il a des amis allemands, britanniques, russes. Bon, ils vont se retrouver alliés. Mais dès qu'on est en guerre et les Allemands sont devenus les Boches, on se bat contre eux. Donc lui, en 1915, il est encore en train de faire ses classes à Nîmes. Il n'est pas encore au front au début de l'année, mais il n'est plus question d'avoir des contacts avec les Allemands. Et en cela, il a une grande cohérence patriote. Alors, il y a le fait que, bien sûr, il est apatride, et un apatride polonais. Or, la Pologne n'existe pas. Il pourrait être allemand, il pourrait être autrichien, ou il pourrait être russe. Donc, il se précipite pour dire qu'il est plutôt du côté des Russes, mais ce qu'il veut avant tout, c'est quand même un des plus grands écrivains de langue française, et il le sait très bien. Ce qu'il veut, c'est être français. Et donc, rentrer en guerre, s'engager pour la France, c'était aussi une façon d'être naturalisé. Mais je crois aussi que c'était sa réelle conviction.
On a cette impression aussi avec Autodix. Lui aussi a eu, comme un certain nombre d'artistes, qui sont partis dans un élan nationaliste pour défendre leur patrie et qui, assez vite, ont été frappés de plein fouet par la violence de la guerre, par cet enlisement et puis par un dégoût.
Oui, il est très représentatif, effectivement, de cette attitude dominante. Un début assez va-t-en-guerre, très actif dans cette notion de guerre juste, de guerre qu'il faut remporter coûte que coûte parce qu'on est les meilleurs, les plus forts et qu'on a les meilleurs chefs. On peut le voir avec le Stahlhelm, ce casque qui donne l'impression d'un guerrier moderne, invincible, l'air résolu, le regard très vif, très perçant et sa mitrailleuse grossie, très bien mise en valeur. Tel que j'étais en soldat donc pendant la guerre et tel que j'ai pratiqué mon travail de guerrier. Et ça, on va le voir sur quelques représentations où on peut imaginer qu'il s'auto-représente sur une des gravures qui montre un assaut où la compagnie de mitrailleurs dégringole d'une colline avec tous les outils, les pièces de la mitrailleuse, mais il dégringole sur un tas de cadavres. Et lorsque la guerre est déclarée, il se porte volontaire pour être mitrailleur. Il demande vraiment à participer, il veut voir. Tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il veut voir doit être vraiment révélé, doit être montré. Et pendant toute la guerre, il va produire sur des petits calepins des dessins en quantité très importante, au fusain pour la plupart, des vues de tranchées. Il n'arrête pas de crayonner et d'envoyer ses dessins à une amie qui les garde soigneusement et il lui explique ce qu'il voit, ce qu'il fait, sentant évidemment qu'il vit un moment historique. Alors dans ses dessins, il est intéressant de voir que le style n'est pas fixé. Il va vers des choses parfois presque descriptives, d'autres fois un peu abstraites, schématiques, parfois un petit peu néo-cubiste, très légèrement néo-cubiste. Beaucoup de ses dessins se rapportent à l'année 17, à des tranchées principalement ou à des vues de destruction.
Fernand Léger.
Non, j'ai fait la guerre 14-18 comme brancardier, alors comme cadavre, je m'y connais. J'en ai vu toutes les dimensions et toutes les couleurs. Le premier, c'est un fantassin, c'est en arrivant au front. Un fantassin couché sur le bord d'un talus. Et qui était là certainement depuis plusieurs jours, qui avait diminué. On le sentait déjà, il entrait dans le sol, il n'avait plus son volume. Et presque, il n'y a pas que moi, tous les hommes qui étaient là, qui étaient des jeunes recrues, n'est-ce pas, regardaient avec des yeux effarés. On avait l'air qu'il y avait l'uniforme, mais il n'y avait pas de corps dedans. Et c'était, il n'avait aucune blessure apparente, il était comme couché, mais diminué, n'est-ce pas, diminué, réduit, à un costume avec rien dedans. Voilà l'impression que nous avions tous.
Léger, quand il est mobilisé, il a 34 ans. Donc c'est un artiste jeune, mais c'est pas un débutant.
Ariane Coulondre.
Il n'est pas du tout dans des considérations politiques. Il est dans des recherches picturales et tout cela va beaucoup l'affecter et beaucoup le desservir. Il est mobilisé, il pense comme beaucoup que la guerre ne va pas durer longtemps. Donc il n'est pas inquiet dans ses lettres du front. Au début, on voit bien que... Bon, il écrit les événements et ce qu'il observe, mais il n'y a pas d'inquiétude. Et plus les mois passent, plus il commence à s'inquiéter de ne pouvoir revenir, de ne pouvoir créer. Il est extrêmement frustré d'être au front alors que d'autres peintres ont réussi à être exemptés ou restent à Paris à la même époque. Il voit la guerre comme une grande injustice qui met un terme à une époque d'effervescence et de créativité.
Adieu que c'est long. Je commence à en avoir plus que je ne peux porter. Je ne sais pas, mon cher, si tu te fais une idée de la mentalité à laquelle on peut être réduit après 10 mois de ce métier-là. Je ne le crois pas. Ça devient irrespirable. Si seulement on pouvait espérer une pauvre petite permission. Mon pauvre vieux, ça serait à genoux que je la recevrais, cette lumineuse permission. Messieurs les officiers en ont... Tous les hommes dans les dépôts en ont comme ils veulent et nous, rien. Je te demande de faire tout ce que tu peux pour me décoller de là. On rappelle des tas de types pour l'industrie, je suis inscrit comme dessinateur. Tous les types à relation ont tous réussi à peu près, après un certain temps au front, à se caser. Le principe, sauver l'argenterie, est toujours en honneur. Je crois faire un peu partie de cette catégorie de luxe. Et quand je vois les embuscages de jeunes nullités comme l'on en voit, n'ai aucun scrupule ni retenue.
Fernand Léger, correspondance de guerre avec Louis Pougou.
Léger est privé de ses pinceaux, il est privé de toile, il est dans les tranchées, donc il n'a rien pour peindre. Donc ce qu'il a sous la main, c'est des bouts de crayon, des petits morceaux de lettres. Et donc sur ces supports de fortune, il va griffonner, on peut dire vraiment griffonner, des scènes qu'il observe autour de lui. Donc les soldats qui sont tassés au fond des tranchées. Il y a une grande promiscuité, on voit les corps qui sont serrés, qui attendent les combats. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est... des compositions très fragmentées. On est encore dans l'esthétique du cubisme. Quand Léger part au front, il est mobilisé en août 1914. Et il est en plein dans les recherches cubistes, c'est-à-dire vraiment la fragmentation de la forme, l'éclatement de la perspective. Et au front, il observe cette même fragmentation du réel.
Finalement, j'ai emmagasiné un tas d'images.
André Masson.
Qui sont devenues même des procédés de composition, en fait, qui est tout de même un de mes meilleurs tableaux pour moi, c'est le suicide de Heinrich von Kleist, n'est-ce pas ? Donc, d'ailleurs, très curieusement, le crâne éclaté laisse voir comme l'intérieur d'une grenade, et j'ai vu cela en Champagne pendant une offensive. J'ai vu un soldat. Dans un boyau dont la tête avait cette même transformation. C'est-à-dire une partie du crâne seulement, et de la grandeur d'une grenade. D'ailleurs, c'était devenu un peu obsessionnel chez moi. J'en avais vu d'autres, bien plus effrayantes, bah, y compris la mienne, qui faisait reculer d'horreur les malheureux qui étaient à côté de moi. Bah. Ma cage thoracique était tout de même à nu, à grande partie, parce que la balle que j'ai reçue il y avait sûrement une balle de mitrailleuse, s'est retourné et a fait le même effet qu'une balle explosive.
Et là, il y a des dessins, Marie-Prévost-Beau, ce sont des dessins de soldats.
Alors voilà, de dessins artistes combattants, donc qui sont présents sur le front. Alors, c'est une vision très réaliste, très concrète, et où on sent l'instant vécu. On sent derrière un sous-titre, ce que j'ai vu, ce que j'ai besoin de vous transmettre. Et là, on voit voilà, les Marocains blessés de Jean Droit. On voit par exemple, ici, de Maurice Le Poitevin, se blesser très mal en point avec du sang. Curieusement, dans les dessins de la guerre, le sang n'est pas apparent, parce que c'est quelque chose de tabou. Le blessé, c'est une chose. Montrer le mort, surtout si c'est l'ennemi, bien évidemment, on le montre. On montre rarement ses propres cadavres, sauf à l'extrême fin de la guerre, parce que voilà, il y a une telle masse de morts. Quand on dépasse le million, voilà, il faut quand même, à un moment ou à un autre, lâcher un petit peu de poids en termes de propagande.
Le témoignage a une valeur extrêmement forte pendant la Grande Guerre. On veut avoir en fait des preuves de ce qui se passe. On veut être informé de ce qui se passe. Et donc les croquis du front, les aquarelles et toutes les œuvres de guerre, de parfois d'artistes qui ne sont pas connus, vont prendre une grande importance à cette époque.
Claire Mingon.
Des artistes qui n'étaient absolument pas connus, qui ont eu des expositions parfois de 200 à 300 numéros, qui documentaient la guerre et qui montraient d'ailleurs des aspects parfois assez critiques de la guerre. On a dit que la censure s'exerçait énormément et qu'on ne pouvait pas montrer grand-chose. La censure s'est plutôt exercée dans le domaine de la presse, voire dans le domaine de la littérature encore que. Mais dans le domaine de l'art, il y a eu très peu de censure en réalité. Et il n'est pas rare que chez certains aquarellistes, on voit des cadavres, on voit la détresse du soldat dans la tranchée, on voit la monochromie des champs de bataille et toute la tristesse qui peut s'y associer.
Quand on pressait le pas, on venait en file indienne, n'est-ce pas ? On savait qu'on allait voir une horreur remarquable. Par exemple, ces deux malheureux soldats qui étaient sur une petite banquette d'un boyau amorcé, dans la même attitude de stupéfaction, mais n'ayant qu'une boule rouge à la place de la tête, et bien les soldats s'arrêtaient d'abord, bien sûr, de stupéfaction, et puis ils couraient.
Quand Léger fait cette expérience du champ de bataille.
Philippe Dagen.
Où il était brancardier. Et quand il voit, vous savez, c'est les fameuses lettres qu'il envoie, lettres souvent citées, où après, dans une accalmie des bombardements, il visite, entre guillemets, seul, une partie du champ de bataille. Et il voit ces débris de corps humains, et en particulier les têtes qui ont été décapitées, et puis ces mains dont les doigts ont été coupés par les mâchoires des hommes qui, dit-il, dans l'excès de la souffrance, dans leur agonie, se mangent les doigts avant de mourir. Enfin, la souffrance est telle qu'ils en arrivent à des comportements proprement inimaginables. Et de cela, il dit qu'il faudrait prendre la photographie. La photographie qui d'ailleurs est en train de se populariser comme mode de représentation du champ de bataille. Je pense que dessiner, à plus forte raison peindre, cette abominable souffrance, ce serait au fond, j'allais dire, immoral. On touche à des questions qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, se sont largement répandues. Est-ce qu'il est pensable de faire un beau tableau avec de telles abominations? Je crois que Léger a clairement conclu que non. Il est évident que la guerre moderne n'est pas une guerre que l'œil humain peut facilement voir. Les projectiles vont trop vite, les explosions sont instantanées, et de surcroît, c'est une guerre de dissimulation, c'est une guerre de camouflage, c'est une guerre où on s'enfonce sous terre. Quand vous voyez des photographies, puisque là, il y en a eu des milliers, photographies du champ de bataille, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de la terre, vous voyez des étendues de terre avec des cailloux, avec des bouts d'arbres qui sortent du sol, et éventuellement une petite ligne qui va être le signe d'un parapet, d'une tranchée. Bon, Ça ne dit rien. C'est une image qui est quasiment une image muette, ou celle d'un désert. Et au moment où le combat intervient, à l'inverse, ce n'est plus possible de faire des images.
Cette nuit, spectacle admirable. Deux Zeppelins ont survolé Paris dans un ciel d'une pureté parfaite, où les longs pinceaux des projecteurs mettaient une féerie. Ils ont passé non loin de la maison, très haut, mais parfaitement net dans le jet électrique qui les accompagnait. Les obus éclatant autour semblaient des fusées d'artifice. On était tenté d'applaudir. Malheureusement, des bombes ont dû porter, et il doit y avoir des victimes. Valoton, journal.
Verdun, tableau de guerre interprété, projection colorée, noir, bleu et rouge, terrain dévasté, nuée de gaz. C'est un tableau qui confine à l'abstraction, mais on y reconnaît néanmoins, plongé dans un embrasement pourpre, une forêt aux arbres étêtés, des faisceaux de projecteurs de couleurs noire, rouge, verte. On reconnaît les couleurs acides de Valoton, peintre Naby. Des nuées, des volutes.
Sylvie Leray, Burimi.
De couleurs noire, verte. Et des pans de sol dévastés, imbibés d'eau. C'est un tableau qui ne met pas en présence d'êtres humains. On ne peut s'identifier à aucune des parties en présence. Il y a chez Valoton, qui est trop âgé pour combattre, une forme de fascination pour ce qui est en train de se passer. En 1916, dans son journal, Valoton imagine Verdun. Et il écrit « Ce lieu de mort doit avoir quelque chose d'effroyable et en même temps de brillant ». C'est une expérience fondatrice pour toute une génération. Et Valoton ne veut pas en être exclu, et c'est pourquoi il candidate pour se rendre en mission sur le front dans le cadre de ses missions artistiques organisées par le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Il reviendra donc de cette mission qui a duré 3 semaines sur le front de Champagne, extrêmement désillusionné sur cette espèce d'ersatz finalement de l'expérience du front, mais qui ne permet pas d'approcher de l'essence même de la guerre. Il livrera, comme le prévoit le cahier des charges des artistes missionnés, un certain nombre d'œuvres qui seront exposées au musée du Luxembourg à l'automne 1917, mais il les considère comme inabouties.
Il y a eu 2 types de missions. Une première mission au début de la guerre qui a été sous l'égide du ministère de la guerre et qui a donc envoyé des peintres militaires pour couvrir la guerre. Donc c'était plutôt des artistes finalement assez âgés qui documentaient ça d'une manière assez objective et surtout patriotique, c'est-à-dire qu'ils avaient justement pour mission de pas montrer les aspects trop humains, trop difficiles de la guerre. Ça n'a pas paru finalement bien documenter la guerre et donc ces missions ont été abandonnées. Elles ont été reprises ensuite en 1916 sous l'égide du ministère des Beaux-Arts, ce qui est tout à fait différent parce que là, c'est le ministère des Beaux-Arts qui a fait le choix des artistes et donc on a envoyé 90 artistes au front. Donc les plus célèbres, effectivement, c'est ce qu'on appelle la mission Naby, c'est-à-dire Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, Valoton surtout, qui sont partis donc pendant, c'est souvent des courtes missions, disons 3 semaines, à proximité des lignes de feu, avec un accompagnateur, etc., pour voir le terrain de la guerre, et on rapportait des images sensibles. Images sensibles, c'était les termes de la commande du ministère, parce que on voulait finalement compenser, si j'ose dire, l'objectivité de la photographie.
C'est un tableau qui réalise dans une sorte d'urgence, en 3 semaines, du début décembre jusqu'au 27 décembre 1917, qu'il accompagne également d'un texte qui s'appelle « Art et guerre ». Il veut se détourner de ce qu'il appelle l'illusion de véracité que procure le voyage au front, et il s'interroge justement sur la possibilité de faire une peinture qui n'aurait pas d'objet. Et il évoque justement ces expériences embryonnaires du cubisme qui peut-être permettront de s'approcher de ce type de peinture Il définit donc la guerre comme une expérience intérieure et il écrit que dessiner ou peindre des forces serait bien plus profondément vrai qu'en reproduire les effets matériels. Ce tableau, il le gardera pour lui jusqu'à sa mort. Il a été fort peu exposé, sinon lors d'une exposition à la Galerie Druet en 1917, au cours de laquelle un journaliste du Crapouillot a donné une définition extrêmement juste. Il a écrit « Voilà bien la guerre de machines et de sciences, sans les éléments de pittoresque chers à la peinture militaire d'autrefois. Qui a donc donné cette définition de la lutte actuelle? Un paysage qui vous tire dessus. Par des volumes savamment juxtaposés et des grands pans colorés, Valoton fixe les aspects infernaux du combat moderne. Sombre volute, flammes géantes, fusées tragiques, bouillonnement de gaz jaunâtre, telle est l'œuvre que suggère le nom légendaire de Verdun. » Valoton ne serait-il pas le premier peintre de ce paysage meurtrier ?
Et alors vous, pratiquement, vous avez été donc fantassin et vous avez quitté tout de même l'infanterie, oui, je crois, à la fin de la guerre, pour aller dans un corps tout nouveau.
Après ça, on m'avait harcé au camouflard.
Qui avez-vous retrouvé ?
Alors, il y avait à la tête de ça, il y avait Forain. Et puis alors, il y avait beaucoup de décorateurs de théâtre. Il y avait Ronsin, il y avait un homme émouvant qui avait du talent et qui était à l'opéra. C'est lui qui a trouvé le principe du raffia.
André Dunoyer de Ségonzac.
Le raffia, est pour imiter l'herbe, était de l'herbe teinte en vert et mis sur du treillage et qu'on mettait au-dessus des batteries ou des observatoires, oui, et qui en photo d'avion donnait absolument la matière de l'herbe.
Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne passiez pas votre temps à peindre du raffia?
Oh non, non, nous, je le posais, moi.
Oui,
et je faisais beaucoup d'arbres observatoires. C'était ma spécialité. On faisait des arbres blindés qu'on mettait en première ligne.
Des arbres blindés?
Des arbres blindés. On prenait toujours des arbres. Et vous savez, sur le front, oui, dans les mauvais secteurs, il y avait trois arbres sur quatre qui étaient décapités. C'était un peu un tuyau de poêle, ces arbres. Alors, on copiait on faisait de la fausse écorce, qu'on préparait tout ça, était préparé à l'avance, oui, et l'arbre était un espèce de cylindre qui était blindé à 1,5 cm. C'était à l'épreuve des balles et à l'épreuve des chapnelles. On l'enveloppait, on faisait l'opération en une nuit.
Mais l'observateur était à l'intérieur de ce cylindre.
Il était à l'intérieur, oui, de ce cylindre, avec des viseurs
et des périscopes, oui.
Et une chambre téléphonique, pas de périscope, à vue directe, on en a mis très près. Moi, j'en ai mis à 150 mètres des Allemands. Alors, dans la nuit, il y avait un moment deux arbres parallèles. Mais avant le jour, on supprimait l'autre, qu'on recouvrait avec du raffia et des choses comme ça. Et il restait, oui, comme
ça. Nous ne sommes plus dans le cubisme, là, nous sommes dans le surréalisme réellement.
Ah oui, oui, oui. À dire qu'on cassait les formes, on faisait son possible pour casser les formes.
Oui.
Est-ce que c'était prestigieux de faire partie de cette unité de camouflage, de porter ce brassard au caméléon ?
Il y a clairement le sentiment d'appartenir à une forme d'élite pionnière. Il y a aussi certainement une réelle fierté liée au fait de se sentir utile dans la guerre, mais par les moyens de son art. Les artistes missionnés par l'administration des Beaux-Arts en 1917 cherchent à se rapprocher des sections locales de camouflage pour échanger avec les artistes qui en font partie. On cherche aussi, de manière peut-être moins glorieuse, à rejoindre la section de camouflage parce qu'effectivement le taux de mortalité y est moins important que dans d'autres unités. Il y a aussi certainement une réelle fierté liée au fait de se sentir utile dans la guerre, mais par les moyens de son art. L'idée aussi que l'on peut, en trompant l'ennemi, sauver des vies humaines. Et c'est un lieu de sociabilité et d'échange d'idées. Mais il y a néanmoins des victimes et des morts au sein de la section de camouflage, puisqu'il fallait se rendre au plus près des lignes ennemies pour poser ces fameux leurres. Donc un certain nombre des artistes de cette section y ont perdu leur vie.
Et c'est vrai que Fernand Léger en rêve de ce bataillon de camouflage. Il voudrait en être, arborer le brassard brodé d'un caméléon, retrouver les peintres, les sculpteurs et les décorateurs, construire de fausses vaches blindées dans lesquelles on peut se dissimuler. Et puis surtout, il veut qu'on le sorte de la boue des tranchées et des visions d'horreur. Et à lire certaines de ses lettres, on peut palper son désespoir, saisir sa peur de mourir, mesurer les contours de son ennui et dérouler le fil de ses idées noires. Et des idées noires, ils en ont tous.
Mais bon, on avait les foires, hein. Parce que pour monter les tranchées, puis de ramper entre les lignes pour voir si se passait, s'il n'y avait pas une patrouille par là, une patrouille ennemie qui venait. Alors, mais on avait les chocottes. Hein. Vous savez, à ce moment-là, on ne pense à rien du tout. On ne pense même pas à être tué, à être blessé ou n'importe quoi, on ne pense à rien. On est là comme des animaux, quoi. On va à la boucherie, quoi. Alors, sitôt que j'étais blessé, j'ai tout de suite, comme j'en venais de permission, j'ai tout de suite pensé à ma mère. C'est curieux, ça. Tout de suite, on pense à sa mère quand on est blessé.
Il y a le cas de l'effondrement psychologique, de la dépression, qui se produit à la vue des combats. Mais le seul cas vraiment documenté et bien connu que l'on ait là-dessus, c'est Max Beckmann. Beckmann, qui n'est d'ailleurs pas un combattant, ce n'est pas un fantassin, pas plus que d'ailleurs Léger, il sert comme infirmier. En raison de son âge, il est un peu plus âgé, en raison probablement aussi d'une certaine volonté de le protéger. Sans doute, ça ne le protège pas du tout, parce que s'il n'est pas blessé dans sa chair, ce qu'il voit, c'est-à-dire les corps mutilés qu'on rapporte tant bien que mal dans ce que les Allemands appellent des lazarets, enfin, les hôpitaux de campagne, c'est aussi traumatisant. Il fait quelques dessins, quelques gravures, morgue, salle d'opération, et puis en effet, il a cette espèce de crise qui le conduit à être interné à Francfort. Le cas de Kirchner est plus complexe, parce qu'en réalité, Kirchner n'est jamais allé à la guerre. Kirchner a développé une sorte de hantise et il a certes été mobilisé, mais très rapidement, corps médical s'est identifié en lui un homme inutilisable. Kirchner a peint un autoportrait dans lequel il se montre mutilé d'une main, qui est une blessure totalement symbolique, puisque c'est la main avec laquelle il tient ses brosses, mais qu'il n'a jamais subi.
Et est-ce qu'on pourrait dire, à votre avis, Philippe Dagen, que finalement l'expressionnisme trouve avec la guerre, avec sa violence, avec justement ses sentiments extrêmes et ses traumatismes inouïs, trouve sa réalisation?
La plupart des grands tableaux, donc du groupe Diebruck principalement et de quelques autres, sont antérieurs à la Première Guerre mondiale, y compris ceux de Meitner, Ludwig Meitner, qui sont ces tableaux de villes ruinées, de désastres qui font s'effondrer des immeubles, etc. Ces représentations ont été, c'est le moins que l'on puisse dire, confirmées par l'histoire. Donc, vous pouvez dire dans un premier temps que, somme toute, la Première Guerre mondiale a, si j'ose dire, donné raison à l'expressionnisme. On peut aussi poser la question d'une autre manière, qui est plus complexe, et se demander ce qui, dans l'état de la société, principalement allemande, des années 1907-8 jusqu'à la guerre, a suffisamment averti des artistes pour que leurs œuvres anticipent sur cet effondrement.
Cette guerre-là, c'est l'orchestration parfaite de tous les moyens de tuer anciens et modernes. C'est intelligent jusqu'au bout des ongles, c'en est même emmerdant, il n'y a plus d'imprévu. C'est linéaire et sec comme un problème de géométrie. Tant d'obus en tant de temps sur une telle surface, tant d'hommes par mètre et à l'heure fixe en ordre. Tout cela se déclenche mécaniquement. C'est l'abstraction pure, plus pure que la peinture cubiste soi-même. La résistance morale, la ténacité dans l'effort, ça c'est tout à fait moderne. On a été dressé à tout cela par notre vie antérieure. C'est aussi vache que la lutte économique des temps de paix, et c'est pas peu dire. La seule différence, c'est qu'on pousse un peu plus loin, un tout petit peu plus loin le résultat. Au lieu de ruiner les bons hommes, on les tue.
Fernand Léger, correspondance de guerre avec Louis Pougon. Peut-être on peut commencer par décrire ce tableau de Fernand Léger.
Le titre, c'est bien Le Pot à tisane. C'est un tableau qui est assez déroutant à première vue. C'est un tableau qui est éclatant de couleurs, qui est assez petit, mais qui a une grande puissance visuelle. Léger, en fait, est alors à l'hôpital, en convalescence. Il est en 1917 réformé temporairement et on lui diagnostique une tuberculose pulmonaire. Il est à l'hôpital. Et là, dans la blancheur des salles d'hôpital, et sortant de 3 années passées au front, Léger a envie de couleurs et il va poser sur ses toiles des aplats de couleurs jaune, rouge, également des couleurs assez surprenantes, du violet, du rose, du vert, pour imaginer des sortes de petites machines joyeuses, éclatantes, rayonnantes, à partir d'objets de son quotidien. Et sur la toile, cela se traduit par des sortes d'amoncellements de formes géométriques très colorées qui semblent s'imbriquer, former une sorte de ronde dynamique qui finalement évacue complètement la question du sujet. Ce qui compte pour Léger, c'est bien la force visuelle, la puissance de la couleur et de la forme géométrique. Léger va beaucoup insister sur la découverte qu'il a faite au front de la beauté de la machine. Il dit qu'il est surpris par la beauté de l'éclat des canons au soleil et il le voit presque comme une forme de concurrence pour l'artiste. Comment faire aussi beau, comment faire aussi parfait que la machine? Et donc il reprend dans ce tableau ici, on voit effectivement des aplats de couleurs, des tubes, des cylindres qui font penser aussi à ces éléments mécaniques, à ces formes des canons qui ont marqué son regard au front. Il faut savoir qu'en 1917, Léger va peindre, alors qu'il est aussi à l'hôpital, donc à la même époque, une très grande composition qui est vraiment ambitieuse et qui s'intitule « La partie de cartes ».
Ce sont des soldats en train de jouer aux cartes dans un lieu, somme toute, relativement indéterminé. Les corps humains deviennent de plus en plus explicitement des machines ou sont de plus en plus absorbés par le monde des machines, ce qui est l'une des conclusions que Léger a tirées, il n'est évidemment pas le seul, a tirées de la guerre, c'est qu'il n'y avait plus de place pour la notion d'individu, que chaque être humain n'est qu'un tout petit rouage dans un mécanisme qui le dépasse de beaucoup, et au fond, la perte de ce rouage est très secondaire, puisqu'il peut être remplacé par un rouage identique qui sera un autre être humain, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des réserves de l'arrière. La représentation de la guerre la plus pertinente, ce n'est plus une œuvre d'art, c'est un dessin d'ingénieur, c'est le schéma du fonctionnement d'une culasse de mitrailleuse, c'est un moteur d'avion, et là on se rapproche de plus en plus d'une conception qui serait celle du ready-made, où pour montrer la guerre, on est pour ainsi dire, obligé d'en passer par les objets eux-mêmes. La suprématie mécanique sur le monde, si vous en tirez les conséquences artistiques, elle signifie la fin de la peinture.
Voilà, donc nous montons vers la salle centrale, qui est la salle consacrée au Todix. Dans ce nouveau circuit, nous quittons ici l'armistice, le 11 novembre, hein, c'est la fin de cette salle, pour arriver en 1924, puisque c'est la date de la fameuse série d'Air Creek d'Autodix. Et Autodix, c'est vraiment jeter à corps perdu, je dirais, dedans, pour expurger, exprimer tout son passé de soldat, tout ce qu'il a vu comme horaire, et rappeler qu'en 1923, en Allemagne, il se passe des choses graves. Il faut surtout rappeler l'horreur de la guerre pour que ça ne recommence pas, au vu des mouvements fascistes, nazis, qui commencent à naître et à l'inquiéter beaucoup, lui ainsi que d'anciens camarades de combat. Et Autodix va le rappeler à travers cette série-là et également ensuite à travers 3 triptyques, 3 grandes peintures qui vont être d'une violence extrême, pour rappeler l'horreur de la guerre, hein, la tranchée, la guerre. Jusqu'en 1936, c'est sa dernière œuvre qu'il s'autorise en termes de
Voilà, violence inégalée dans l'horreur, la représentation de l'horreur de guerre. Alors voilà ici, à Cléry-sur-Somme, non loin de Péronne, ce que Otto Dix a vu. Hein, il le dit lui-même, c'est le titre de cette eau-forte, ce que j'ai vu sur la côte de Cléry-sur-Somme. Et on a deux soldats allemands, bien reconnaissables à cause de leurs bottes, de leur veste d'uniforme, qui étaient sous un abri. Bon, un abri un peu fragile, certes, mais voilà, ils ont été tués par des éclats d'obus. Mais depuis un certain temps, pour le premier à gauche, les tripes hein, se sont vidées de son abdomen. L'autre, il lui manque sa mâchoire inférieure. La jambe a été très, très éclatée. Mais surtout, ils sont là depuis si longtemps que l'herbe a repoussé du sommet du crâne de ce personnage de gauche. C'est tout à fait étrange, surprenant, mais voilà ce qu'a vu Otto Dix à Cléry-sur-Somme.
Parce qu'un écrivain anglais me l'a dit, Wells, j'ai su par des amis communs que vous aviez été soldat, mais soldat de troisième, deuxième classe, fantassin, et toujours... Il n'a connu la guerre par le plus bas.
André Massou.
Je finis mon histoire universelle, c'est la guerre de 14. J'ai, en Angleterre, interrogé nombre de vétérans et j'ai cherché des soldats. Tous me racontent des histoires, comme vous dites, d'images d'Épinal. On sort avec le drapeau, on pousse le ballon de football. Alors, il m'a dit, où ont-ils oublié? Ou ne veulent-ils pas en parler? Eh bien, je lui dis, oui, nous prendrons 8 soirées. Je lui dis, à peu près, comme ça, en riant. Je lui dis, mais je vous raconterai tout ce que j'ai vu. Mais quand je suis arrivé à l'épisode des nettoyeurs de tranchées, il est devenu blême. Et il m'a dit, mais jamais on a parlé de cela. Je lui dis, non, en effet. On ne parle pas de ce ménage. Et alors il m'a dit, vous, c'est autre chose, vous êtes un artiste et vous êtes un poète. Donc, vous avez été sensibilisé de telle manière, n'est-ce pas, que vous n'avez rien oublié. Alors j'ai dit, non, le film est là, on m'enterrera avec.
Alors, donc là, on a emprunté un boyau, c'est ce qu'on appelle un boyau, ce
tout
petit.
Oui, tout à fait. Cette sorte de tranchée qui serpente, hein, un peu plus que les tranchées elles-mêmes, et donc qui font la liaison entre les différentes lignes de tranchées. Alors là, nous sommes à l'arrière hein, des tranchées françaises, et nous voyons que eh bien, c'est un peu plus construit. On voit les accumulations de pierres, et puis certainement qu'ici on est au niveau bien de ce qui pouvait être une cagna, c'est-à-dire un abri où se mettaient les soldats. Hein, certainement que là, nous avons le haut de la cagna, on imagine que l'ouverture était plus en profondeur, hein, le temps ayant fait son œuvre, et ayant rebouché un peu plus la tranchée, mais voilà, on voit bien de chaque côté l'accumulation de pierres et cette volonté de se protéger encore plus.
Un groupe d'enseignants, ce serait pareil.
Oui. Est-ce que vous avez trouvé des traces dans les récits que vous avez lus d'exaltation de la violence du combat?
Là, il y a un cas, je pense, qu'on peut tout de suite pointer, c'est celui de Ernst Jünger, grand écrivain allemand, pour qui c'est une aventure épique. Hein. La guerre, quelque part, est une bénédiction dans un premier temps. Même si certains passages dénotent un petit peu par rapport à son état d'esprit, on sent bien que chez lui, il y a quand même une exaltation justement à participer à cette guerre, qu'on retrouvera lors de la guerre suivante. Il était présent lorsque l'Historial a été inauguré et les journalistes lui avaient posé la question « Quel est votre plus mauvais souvenir de la guerre ?» Et ce que lui a répondu, c'est de la perdre.
Merci à Annette Becker, Ariane Coulondre, Philippe Dagen, Claire Garnier, Béatrice Joyeux-Prunel, Claire Mingon, Laurent Mariot, Marie-Pascale Prévobeau, Sylvie Leray-Burimi et Christophe Thomas. Merci aussi au Musée de l'Armée et à l'Historial de Péronne. Et merci beaucoup à Marion Rivet. Archivina, Clary Monac et Aude Vassan. Lecture, Nicolas Lekang. Prise de son, Yann Frécy et Pierre Quintard. Mixage, Catherine Déréthé. Artiste au front, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Ghislaine David. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez reboucher la tranchée, bibliographie, liens, nous podcaster pour Péronne ou nous réécouter aux Invalides, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et toute cette semaine encore, pour prolonger la semaine vieillesse de la semaine dernière, vous pouvez visionner gratuitement 15 ans de Marion Poussier sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire. Et demain, deuxième épisode, pendant la guerre, les avant-gardes continuent. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.